Nous sommes en compagnie de Morgane Gauquelin et Élise Mérigeau, qui sont étudiantes à Sciences Po Lille et qui ont fondé À la croisée des Orients. Elles seront cet été au Xinjiang, à la découverte des Ouïghours. Alors, Morgane et Élise, comment est né ce projet ? Alors, vous ne répondez pas toutes en même temps, vous décidez.
Il faut qu'il y en ait une qui répond quand même.
Alors, Morgane.
Donc, en fait, ce projet est né parce qu'on avait pas mal discuté. En fait, Élise a passé une année à Pékin et moi, j'ai passé une année à Istanbul. Et on avait pas mal discuté par mail des échanges culturels et des frontières qui étaient un peu perméables, c'est-à-dire des cultures qui traversaient largement les frontières. Et on en était venu à discuter des Ouïghours, qui sont des turcophones musulmans, mais qui habitent en Chine, qui habitent la province du Xinjiang en Chine. Donc c'était à la fois la rencontre entre la civilisation turque et le monde chinois, et ça nous avait intéressé dans le sens où ça nous concernait un petit peu toutes les deux. Donc on a eu cette envie à la fois de découvrir nous plus cette culture personnellement, et puis de la faire découvrir également parce qu'elle nous intéresse toutes les deux, mais dans un biais, enfin dans une approche un peu différente, et c'est pour ça que ça nous plaisait.
En fait, c'était un projet taillé sur mesure pour vous, puisque l'une qui avait vécu en Chine et l'autre en Turquie, vous étiez obligés de vous rencontrer.
Voilà, c'est un peu ça l'idée. Puis il y avait aussi l'aspect linguistique, c'est-à-dire que il y a Élise qui parle chinois, moi qui parle un peu turc, donc c'est vrai que c'était une rencontre assez inédite. La possibilité aussi, on s'est dit, d'aller faire des reportages assez intéressants parce que on était capable de parler à la fois un peu chinois, un peu turc, d'aller vraiment à la rencontre des gens. On a rencontré des gens après à Paris. C'est vrai que c'était.
Oui, il y avait une évidence.
Oui, ça s'est imposé comme une évidence. Ouais.
Alors, si on revenait un petit peu sur vos parcours respectifs, l'une et l'autre. Élise, qu'on n'a pas encore entendu, pour nous expliquer un petit peu comment, un parcours de formation, hein, évidemment, comment on arrive à monter de tels projets.
On a commencé à travailler ensemble avec Morgane en deuxième année, puisqu'on a dirigé une association de Sciences Po Lille qui s'appelait le Bureau des Arts. Donc dans ce cadre-là, on avait organisé pas mal d'ateliers artistiques, que ce soit de chant, d'écriture, de dessin, de photographie. On avait également mis en place une semaine de l'art. On avait organisé un concert, un week-end culturel à Amsterdam pour les étudiants. On avait également monté un projet avec des enfants du quartier Moulin de Lille. Donc bon, voilà, on avait déjà cet intérêt de monter des choses, de partager des expériences avec des publics assez différents. Et puis ensuite, on est parti à l'étranger. Et je pense que c'est des voyages qui nous ont beaucoup marqués, qui nous ont permis également de nous intéresser à des minorités nationales. Morgane s'est intéressée à la question kurde en particulier, et moi je me suis intéressée aux minorités du sud de la Chine dans le Guangxi, le Guizhou, qui sont les régions les plus connues pour regrouper des minorités chinoises comme les Miao, comme les Dong. Donc voilà, ça nous intéressait vraiment de travailler sur une minorité et justement de voir le rapport, enfin d'essayer d'étudier la construction d'une identité minoritaire au sein d'un très grand État avec justement une identité nationale forte, que ce soit en Chine ou en Turquie.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Donc voilà comment on en est arrivé à monter cette association.
Alors, j'avais quand même posé la question du parcours général. Peut-être que Morgane va me répondre. Avant Sciences Po, vous avez fait quoi ?
Avant Sciences Po
Il y a une vie avant Sciences Po.
C'est vrai. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, moi, j'ai des origines assez diverses au niveau de mes parents, etc. Donc, tout le monde ne vient pas forcément de France. Donc, c'est vrai que ça peut être une façon de réfléchir sur soi, sur l'identité, sur les trajectoires individuelles et sur le fait d'appartenir à une nation ou non. Après, moi, j'ai eu un parcours, une prépa, un parcours assez classique. Et c'est vrai que en dehors de la musique qui a été un élément aussi qui est important dans ce projet, et donc j'ai fait énormément de musique quand j'étais plus jeune, et c'est vrai que ça, on ressent des sensibilités notamment culturelles, c'est-à-dire que ce soit Élise ou que ce soit moi, on a chacune dans des domaines culturels différents des intérêts qui ont été révélés avant Sciences Po. La particularité, ce que nous a amené l'école par exemple, donc Sciences Po, ça a été plutôt de s'intéresser à des cultures de façon un petit peu presque ethnographique, même si c'est le terme est un peu fort, mais c'est-à-dire de s'intéresser à des cultures avec une
vision plus professionnelle.
Oui, plus politique.
Aussi. Bah, c'est pas pour rien. Science politique, finalement.
Ouais, mais c'est pas vraiment politique, c'est plutôt un intérêt plus global pour les choses,
Pour les gens, pour les peuples. Mais c'est vrai que vous pourriez faire de l'ethnologie après pour enchaîner.
Voilà, ça serait ça.
ça serait
la bonne continuité.
Ce serait l'idéal. Donc, à la croisée des Orients, le terme de cette association, c'est une association qui démarre avec les Ouïghours, mais qui va vers ailleurs.
En fait, l'objectif plus largement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'étais plutôt... je me suis promenée plutôt en Syrie, en Jordanie, en Turquie. Je suis plutôt Moyen-Orient, Proche-Orient, alors qu'Élise est plutôt clairement Extrême-Orient. Et en fait, on s'est rendu compte que la frontière Extrême-Proche-Orient n'était pas si perméable que ça. C'est-à-dire que il y avait énormément d'échanges culturels, que l'Asie centrale, c'était une question importante. C'est-à-dire que où est-ce qu'on la place? C'est-à-dire que c'est des musulmans, mais ils ont aussi beaucoup de particularismes culturel. Donc qu'en fait, on voulait, c'est pour ça que ça s'appelle à la croisée des Orients, parce qu'on voulait expliquer un petit peu ces liens entre l'extrême et le Proche-Orient, c'est-à-dire travailler sur l'Orient en général.
Alors Élise, on a bien compris, Morgane, son intérêt pour les projets internationaux. Et Élise, cet intérêt vous vient d'où ?
Eh bien, j'ai commencé à apprendre le chinois à partir de la classe de la seconde. Donc avec mon lycée, j'avais eu la chance de faire un premier voyage en Chine en 2001.
Et c'est une vraie chance, effectivement.
Et je pense que ça m'a beaucoup marqué et ça m'a vraiment conforté dans l'idée que fallait partir à l'étranger. Il fallait rencontrer justement les autres cultures pour les comprendre et que c'est ça qui nous faisait aussi avancer sur nous-mêmes et nous faire apprendre beaucoup sur nous-mêmes.
Alors, qu'est-ce que vous avez appris à Pékin ? Sur le monde ou sur vous ?
J'ai appris la patience. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Je pense que si on veut vivre en Chine, l'une des premières choses à comprendre, c'est la patience. Beaucoup de choses finissent par se débloquer, mais
souvent, pas au même rythme que chez nous.
Voilà. Et puis, ça semble souvent impossible, mais finalement, impossible, c'est pas un mot chinois. Ça n'existe pas là-bas.
Ça n'existe pas. À Istanbul, qu'est-ce qu'on apprend ?
J'aurais peut-être pas dit la patience, mais ça m'a quand même inspiré ça, quelque chose comme ça aussi. À Istanbul, ce qu'on apprend, c'est la plus grande considération de l'autre. C'est-à-dire que ça peut paraître un peu embêtant au départ pour les Français, mais les gens vont tout de suite vers vous, vous posent tout de suite des questions. Il y a une très grande solidarité, un respect, par exemple, de la famille et notamment des personnes plus âgées. Il y a tout un système social qui paraît vraiment désuet en France quand on a vécu en Turquie, parce que les solidarités interpersonnelles marchent beaucoup plus.
Oui, non, ça c'est fini. Cela dit, en Chine, on pourrait dire la même chose sur la famille, le rôle de la famille.
Oui, mais avec la politique de l'enfant unique, la famille chinoise aujourd'hui est quand même réduite à un très petit nombre de personnes. Donc je pense que ça change beaucoup justement depuis 50 ans, depuis les deux dernières générations.
Mais le respect aux personnes âgées, ça reste.
Oui, c'est très important.
Voilà, ça. Effectivement. On a un enfant, mais en attendant, les grands-mères et les grands-pères sont toujours là. cette question des minorités dans le monde, pourquoi elle vous intéresse ? Puisque finalement, les Ouïghours, bon, enfin, c'est une grosse, grosse, grosse minorité, hein, on va dire, mais... Allez, Morgane.
Alors, la question des minorités, je trouve qu'elle est vraiment passionnante. Et tout le monde l'apprend, c'est-à-dire que quand on regarde les médias, etc., souvent on l'apprend d'un point de vue politique pure, avec les organisations qui confrontent, etc. Moi, je la trouve plus intéressante d'un point de vue culturel. C'est-à-dire que j'ai notamment travaillé sur les Kurdes, mais bon... ce qui est très intéressant, c'est ce moyen de revendiquer une appartenance à un groupe plus grand, c'est-à-dire un groupe national, mais tout en exprimant, que ce soit de façon linguistique, culturelle, artistique, au sens large du terme, tout en exprimant des particularismes qui reviennent de loin et qui expriment une profondeur d'existence et une volonté de faire perdurer ces valeurs. Et c'est en fait une traduction très importante de sa volonté d'existence, quoi. Donc c'est vrai que les groupes minoritaires au sein des États-nations ont cette particularité-là de revendiquer une existence historique forte à travers la culture. Et c'est vraiment sur ce biais-là que j'ai voulu le prendre, parce que c'est ça qui m'a paru vraiment passionnant.
Est-ce que quelque part, ils n'ont pas une richesse humaine un petit peu plus profonde ?
Oui, c'est ça, c'est un patrimoine profond qui se transmet. Et en plus, ça se fait de plein de façons différentes. C'est-à-dire que sur les Kurdes, un petit peu comme sur les Roms, ça va être musical, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a un patrimoine qui se transmet énormément par la musique, parce que c'est l'oral, parce que c'est comme ça qu'on raconte les histoires, etc. Alors que dans d'autres cultures, il va y avoir une importance du cinéma ou de la diaspora qui transmet certaines valeurs. On l'a vu par exemple chez les Arméniens, etc. Et c'est vrai que c'est l'expression d'un patrimoine profond qui est une existence vraiment fondamentale, quoi.
Alors Élise, pour vous, cette question des minorités ?
Moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement dans la question des minorités, c'est dans leur rapport justement à l'État et à l'État-nation dans lequel elles évoluent. Je pense qu'il y a de très nombreuses façons différentes de gérer les minorités nationales au sein d'un État. Et que ce soit la Turquie, la Chine ou même la France, on a des réponses très très différentes. Et je pense que si on veut réussir un jour à trouver une solution dans le sens où on voudrait pouvoir vivre tous ensemble de manière pacifique et heureuse, je pense qu'il est important d'aller voir comment ça se passe ailleurs et de pas forcément se poser la question juste par rapport à sa propre histoire, mais justement, enfin, je pense que l'évolution de l'identité ouïghour en particulier par rapport à l'État chinois, ça permet de montrer justement les limites.
Alors, finalement, en espérant que ce ne soit pas une utopie pour l'avenir, que ces minorités arrivent à garder leur place, à faire leur place dans ces États-nations. Morgane, elle me fait non, c'est pas une utopie.
Je crois pas que ce soit une utopie, parce qu'à partir du moment où c'est. On l'a vu, il y a eu de nombreuses tentatives pour anéantir soit les cultures, soit les personnes, parce que ça fait peur, effectivement, parce qu'on a peur du détachement territorial, etc. Je crois pas que ça ait réussi. Je vois pas aujourd'hui comment c'est possible d'anéantir soit une culture, soit un peuple. Dans l'état actuel des choses, c'est pas. Je crois que les cultures perdurent. Quelle que soit la volonté.
Ad vitam aeternam.
Voilà, exactement.
Bon, très bien. Alors, où est le Xinjiang ? Moi, j'ai une carte sous les yeux, mais je suis sûre que les auditeurs n'ont pas de carte.
Ouais, c'est vrai que c'est un placement un peu particulier. Vas-y, Ali.
Donc, c'est au nord-ouest de la Chine, à la frontière avec la Russie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan.
La Mongolie.
La Mongolie également. Et tout au sud, un petit bout qui touche le Pakistan et l'Afghanistan également.
Oui, et puis le Népal est pas loin.
Le Pakistan.
Il doit y avoir un bout de Bhoutan quelque part. Enfin, bref, c'est gigantesque. Finalement, c'est gigantesque. Alors, il y a le désert du Taklamakan qui fait partie du Xinjiang. Allez-vous aller dans le désert du Taklamakan ? Finalement, c'est le Turkestan chinois où vous allez.
Le Turkestan oriental, c'est le nom partisan et politique de la région, puisque c'était le nom avant l'annexion par la Chine à la fin du 19e siècle.
Turkestan oriental, mais moi je vous parle du Turkestan chinois. Ça existe ?
Officiellement non, c'est-à-dire que c'est plus un nom de région, c'est pas délimité
de littérature.
C'est pas délimité par une frontière comme la province du Xinjiang qui existe en tant qu'entité administrative.
Et qui ne regroupe pas finalement que le territoire ouïghour.
Ah non, bien sûr, il y a énormément de minorités différentes. Il y a des Ouzbeks, des Kazakhs, des Kirghizes.
Voilà.
Et de plus en plus de Chinois. Depuis 1949, la population chinoise a quadruplé dans le Xinjiang. Puisque dans le processus d'intégration nationale, le gouvernement de Pékin voudrait mélanger les populations pour que les différentes minorités cohabitent.
Pour que tout le monde vive en bonne intelligence, finalement.
Voilà.
Donc, les caractéristiques de la culture ouïghour.
Alors, je vais commencer puis tu finiras, Elise. La particularité des Ouïghours, c'est ce qui m'a concerné en tout cas, c'est que ce sont des musulmans turcophones de Chine. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des modes de vie, mais ça, c'est très large. C'est-à-dire que ça va des tenues vestimentaires, de l'alimentation, de la façon de pratiquer une religion, de les jeux, les fêtes, l'agriculture. Mais si, parce qu'avec l'alimentation, il y a l'agriculture, l'élevage, etc. Donc, en fait, c'est toute une façon de vivre différente, qui est basée au départ sur le fait que, à mon sens, je crois que le fait que la langue et la religion soient différentes sont des éléments importants.
Au départ, il y avait du nomadisme, il y a très longtemps.
Il y a très longtemps, mais en fait, paradoxalement, c'est ces Turcs-là, c'est-à-dire que c'est en Turquie, les Ouïghours, comme on dit, sont considérés comme les Turcs d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont considérés comme ceux qui ont le moins bougé. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du 8e, 9e siècle, les Turcs sont partis d'une...
Vers la Turquie.
Oui, voilà, jusqu'à l'actuelle Turquie, mais en s'installant également sur les pays en stan, c'est-à-dire l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, bon, je ne fais pas la liste.
Ils venaient d'où ?
Et ils venaient, on estime, bon, après c'est des estimations, parce que ça fait longtemps, on estime qu'ils venaient du sud de la Mongolie. Mm-hmm. Et donc en fait, les Ouïghours, ils sont un peu descendus jusqu'à l'actuel Xinjiang. Donc c'était des nomades, ils avaient une façon de vivre dans le désert, c'est des gens qui ont bougé, etc. Mais en fait, c'est, paradoxalement, les Ouïghours sont ceux qui ont le moins bougé.
Très bien. Alors Élise, les Ouïghours, selon vous ?
Moi, ce qui m'intéressait dans le fait d'aller au Xinjiang pour rencontrer les Ouïghours, c'était le fait qu'après avoir vécu un an à Pékin, ce que je connais de la culture ouïghour, c'est le folklore version pékinoise. Donc, c'est les restaurants où il y a des danseuses à moitié nues avec des serpents et de la musique très joyeuse. Et,
ah oui, moi, j'ai fait ça à un restaurant mongol. C'était pas ouïghour, c'était mongol, et c'est vrai que c'était une soirée mémorable.
Et donc c'est très rigolo quand on connaît rien aux Ouïghours, mais quand on commence à s'intéresser à la question, on se dit que finalement pour des musulmans c'est un peu curieux et ça correspond pas forcément à la réalité de leur quotidien sur place. Donc,
après les danseuses du ventre, c'est un autre thème très très important et on pourrait y consacrer une émission entière parce que entre la contradiction du spectacle et de la vie de famille dans tous les pays musulmans, ça cohabite sans problème. Donc les caractéristiques de cette culture, Morgane en a un petit peu parlé, Élise, vous en avez une idée ou vous attendez d'y aller ?
On a lu quand même pas mal de choses sur les Ouïghours, on est bien renseignés maintenant. Donc en fait, moi ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est le fait que c'était les marchands du début de la route de la soie quand même à l'origine. Donc c'était donc les nomades, mais commerçants autour de Kashgar, de Rotan, qui étaient des grandes villes carrefour de la route de la soie, juste avant que ça passe justement en Asie centrale jusqu'à la Turquie. C'était des marchands.
Et ça commence à nous faire rêver. Si vous dites route de la soie, Kashgar, tout ça, on se dit oh là là, ça y est, ça va. On part très très loin. Et d'ailleurs, à ce propos, votre itinéraire, vous allez passer par où ?
Alors, on part de Pékin, puisqu'on ne peut pas aller à Urumqi, qui est la capitale du Xinjiang. On ne peut pas y aller directement depuis la France.
Il n'y a pas de l'île Urumqi direct ?
Eh non.
C'est un scandale.
Qu'est-ce que passe-t-il ?
Donc, on va de Pékin à Urumqi, puis jusqu'à Kashgar en avion. On va passer ensuite une semaine autour de Kashgar pour visiter tous les petits villages, etc. Kashgar, il faut savoir que c'est une des villes la plus proche de la frontière kazakh et qui est considérée comme la plus grande ville carrefour de l'ancienne route de la soie en Chine.
C'est ouzbek, juste.
Oui.
Et
ensuite, on va passer une semaine en itinéraire, donc au départ de Kashgar jusqu'aux villes clés que sont Yensigar, Yarkand, Kargilik et Rotan. Donc pendant une semaine pour justement sortir un petit peu des grandes villes, peut-être un petit peu plus touristiques, et puis rencontrer aussi les gens des campagnes, ça nous semble très important, avant ensuite de rentrer sur Urumqi et Pékin.
Tu as dit le tourisme doit être assez relatif de ce côté-là. Malgré tout, mais bon, vous allez voyager en bus,
on se retrouvera.
À cheval, à deux dames, à pied.
Avion jusqu'à Kashgar et ensuite des bus, il y a beaucoup de bus. Mais sinon, je pense qu'on fera aussi des trajets entre villages en charrette.
Non, voilà, ça va être bien.
Mais je voudrais juste rajouter que, en fait, l'avantage aussi de ce trajet-là, donc c'est-à-dire qu'Élise vient de, c'est qu'en fait, on passe par plusieurs cultures ouïghours. Hein, c'est-à-dire que c'est un peu ça la complexité de la culture ouïghour. C'est-à-dire que, donc, j'ai rencontré une amie qui est ethnomusicologue à Paris et qui m'a un peu expliqué ces différentes tendances, ces différentes approches culturelles, musicales, religieuses, etc. Et on a affaire quand même, sur un territoire très large, à des façons de vivre et à plusieurs expressions culturelles très différentes. Donc l'avantage, on ne sera pas du tout exhaustif dans le voyage parce que de toute façon, en un mois, c'est pas possible. Oui. Mais malgré tout, le trajet donc de Kashgar à Rotan nous permet de visiter nous permet de passer par plusieurs villages qui sont des expressions culturelles très différentes.
Vous partez quand ?
On part de mi-août à mi-septembre.
C'est la bonne saison ?
Il va faire très très chaud, mais on n'a pas le choix pour des impératifs personnels. Mais je pense que en un mois, vu qu'on a quand même cerné l'itinéraire sur des villes très précises, on aura le temps de ramener des choses très intéressantes.
Bah, j'espère bien. D'ailleurs, à ce propos, nous n'avons pas de musique aujourd'hui parce qu'on attend que vous nous en rameniez de vos propres enregistrements. La musique ouïghour en quelques secondes, les mougams, tout ça.
Les mougams.
Moukam.
Bon. Donc c'est un peu donc c'est un ce sont des morceaux traditionnels ouïghours qui sont aussi des morceaux traditionnels turcs, hein, c'est pas spécialement ouïghour, c'est des...
Mais parce que dans le monde plus arabophone, on dit makam.
Ouais, donc voilà, c'est des morceaux qu'on retrouve à la fois chez les Turcs, chez les Arabes, etc. Donc c'est pas spécialement ouïghour, mais la particularité, c'est que les moukams ouïghours, ils ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO sur les 12, donc je crois que ça se dit makam aussi, c'est makam ou moukam, ils ont été également inscrits au patrimoine de l'UNESCO, donc aujourd'hui, ils ont une reconnaissance culturelle ouïghour qui est vraiment pour eux hein, quelque chose d'important. Et c'est en ça que je dis que la revendication, elle passe aussi par des aspects culturels qui sont intéressants. Donc sur la musique, on retrouve dans la musique ouïghour des influences plus proches des Turcs et des Iraniens avec des instruments traditionnels comme le saz ou le barlama ou des choses comme ça, des instruments comme ça, ou même une technique vocale qui paraît finalement plus proche de cette partie-là du monde, même s'il y a des particularismes ouïghours très forts.
Ça, c'est sûr qu'on, quand on écoute un mougam ouïghour, on ne perçoit pas une seule seconde une influence chinoise. Par contre, une influence plus du côté... peut-être du Kazakhstan ou de l'Iran ou de l'Ouzbékistan.
Tout à fait.
On a l'impression que c'est vraiment un ovni par rapport à la Chine, cette musique.
Ah oui, ça apparaît. Alors, je ne connais pas les autres minorités chinoises, mais c'est clair qu'on entend tout de suite cette proximité avec l'Ouzbékistan, avec l'Iran au niveau des instruments, au niveau de la technique, ouais, de la façon de chanter, au niveau même de la durée des morceaux, etc. Il y a toute une série de particularismes et qui font vraiment que c'est pas de la musique chinoise, on l'entend tout de suite, c'est de la musique orientale traditionnelle.
Bon bah d'ailleurs à propos de musique orientale, il me semble que on en entend un petit peu là, j'en entends dans mon casque, alors on écoute plus fort. Alors ça, c'est de la musique de Xinjiang.
C'est de la musique ouïghour.
En tout cas, ça fait pas très chinois, ça, on est d'accord.
On reconnaît les percussions aussi, qui sont vraiment fondamentales, notamment en Iran, mais on reconnaît aussi... Les percussions...
Et puis cette façon de traiter les cordes aussi.
Oui.
Ça, c'est très, très intéressant. Bon, de toute façon, on attend vos enregistrements pour la rentrée. Donc, Élise et Morgane, merci. À la rentrée, vous nous faites un bilan de votre voyage au Xinjiang, avec les musiques que vous avez enregistrées sur place, et une malle entière de merveilleux souvenirs à transmettre aux auditeurs. Donc, on vous attend de pied ferme pour la prochaine émission.
Merci beaucoup.
Merci.